Actu SF, les podcasts.
Bon, on va pouvoir commencer. On attendait que vous soyez tous installés parce que vous êtes assez nombreux, voire très nombreux, pour cette table ronde qui s'appelle « Perdre le contrôle de son corps, la maîtrise de son corps ». Et nous sommes tous trois ravis de pouvoir discuter de ce sujet. Tout d'abord avec Jean Dagron, qui est le créateur de, qui est médecin, qui est le créateur des consultations pour personnes sourdes à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris, qui est aussi linguiste, qui s'investit beaucoup en ce sens. Et qui nous apportera quelques éclairages sur, sur la médecine, sur la prise en charge et la prise en compte, surtout. Il vous expliquera pourquoi il fait ce distinguo des personnes en situation de handicap. Et nous avons à côté de moi Sylvie Denis, qui est autrice de science-fiction, qui est aussi traductrice, et qui nous éclairera sur des aspects science-fictifs liés à cette thématique. Petite information, nous avons décidé tous trois de faire ce qu'on appelle une modération tournante, c'est-à-dire que nous allons nous poser tout à chacun des petites questions parce qu'on a trouvé que ça pouvait être très bien. Et au bout d'une trentaine de minutes, on vous passera le micro pour enregistrer le débat et ainsi pouvoir échanger avec vous. J'espère que ça vous plaira. J'espère que les questions seront nombreuses. Et puis, on va commencer. Je vais commencer par Jean. Jean, pour toi, c'est quoi perdre le contrôle de son corps en tant que médecin, en tant que spécialiste ?
J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit prise en charge. Ça, c'est un mot médical que je déteste. Prise en charge, comme si les gens étaient un fardeau. Il fallait qu'on prenne un fardeau en charge. Donc, je préfère le mot prise en compte. Prise en compte des gens dans leur diversité, dans leur langue, dans leur rapport au monde. Voilà. Et prise en charge, c'est un mot médical affreux. Même quand j'ai vu l'intitulé, là, j'ai su hier que je devais intervenir, j'ai vu l'intitulé, j'ai dit oh là là, mais j'ai rien à dire là-dessus, parce que je ne suis pas professeur de yoga, je ne suis pas porteur d'une maladie neuromusculaire, je ne suis pas usager de drogue. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire ? Et je pense que c'est important, justement, comme médecin, de ne pas parler à la place des gens. Voilà, ça c'est une position de principe, donc je ne parle jamais à la place des gens, même à la place des sourds. Je fréquente les sourds, mais je ne parle jamais à la place des sourds. Et je me suis dit, mais qui peut... est-ce que dans ma vie, j'ai une expérience de perte de contrôle ? Alors, totalement, totalement. C'est ce qui m'a fait rencontrer les sourds, c'est souvent une perte de contrôle de moi. Alors je peux vous raconter ça, hein. Voilà, ma formation... Bon, voilà, je vais aller rapide, hein, c'est pas. Mais ma formation de médecin, j'étais médecin, je m'occupais du sida et tout, et j'avais aussi une petite activité de médecin phoniatre. J'avais une formation de phoniatre. Et donc, je travaillais dans une école de sourds. Et à l'époque, les enfants sourds, on voulait absolument qu'ils oralisent, qu'ils parlent. Voilà, il fallait qu'un enfant sourd oralise. Et puis, c'était des échecs. Des échecs. C'est-à-dire que les enfants de 10 ans, 12 ans avaient un langage oral d'un enfant de 3 ans. Et puis, moi, j'ai forcé à faire mon métier. Franchement, c'était pas du tout satisfaisant. Puis un jour, il y a des parents d'un enfant sourd qui m'ont invité chez eux. C'est des gens beaucoup plus, très ouverts, beaucoup plus que moi, et qui avaient appris la langue des signes avec leur enfant. Alors que la langue des signes était interdite en France, hein, enfin, n'existait pas. Et donc, à un moment donné, on discutait, on buvait un coup, tout ça. Puis, bah, qu'est-ce que fait le gamin ? On rentre dans la pièce, et le gamin, il était avec ses mains, comme ça, il soliloquait en langue des signes. Gamin qui avait 4 ans. Et je me suis dit, mais bon Dieu, c'est pas possible. Lui, il rêve, il se raconte des histoires en langue des signes, avec ses mains et tout. Qu'est-ce que je m'embête à l'obliger à oraliser ? Il oralisera le jour où il voudra, quand il pourra et tout. Et effectivement, ça a été la grande découverte qu'il y a l'espèce humaine est magnifique. Et donc, quand on est privé de quelque chose, eh bien, on peut développer tout son potentiel autrement. Et voilà, donc là, ça a été compliqué en tant que médecin, surtout un médecin formé à la phoniatrie, à l'ORL et tout, de la perte de contrôle, la perte de ses préjugés, perte de ce... Il faut absolument être dans la norme sociale et perte physiquement soi-même, oublié. Alors, pour qu'un médecin apprenne à se taire, c'est difficile. Et donc, apprendre à se taire et à regarder, à comment se servir de ses yeux avant de pouvoir se servir de ses mains. Et en fait, c'est les sourds qui m'ont tout appris. Et donc, c'est une perte de contrôle. Et c'est vrai que cette perte de contrôle que nous permettent les sourds, on le vit intimement, physiquement. Voilà ce que je veux dire. Bon, après, on en discutera. Voilà. Et...
Je pense qu'on a, on a tous des expériences de perte de contrôle. L'écriture, quelque part, en est un, parce que ça consiste à jouer avec le fait que quelque chose se passe dans votre imagination qui surgit de manière plus ou moins contrôlée. Et le but, c'est d'arriver justement à contrôler ce flot et à le mettre en forme pour arriver à avoir quelque chose sur le papier que les gens trouveront agréable à lire. Donc tout le jeu d'écriture, c'est quelque chose justement entre le contrôle et le non-contrôle. Y compris dans le corps, parce que quand on dispose de plusieurs instruments pour écrire, on peut écrire à la main avec un stylo ou l'ordinateur, et moi j'éprouve pas la même chose et pas les mêmes sensations quand j'écris avec un stylo et avec un clavier. Le stylo étant pour moi plus fluide, hein, le clavier plus rapide mais moins agréable quelque part. Donc à nouveau, il y a ce jeu entre qu'est-ce que je contrôle et quel instrument je vais choisir à certains moments pour avoir plus ou moins de contrôle sur ce que je fais.
Question, ouais. Hein. Donc, moi j'ai envie de te poser la question. Tu as fréquenté longuement les médecins et tout, et je pense que tu connais sur ta santé, tu en connais beaucoup plus que beaucoup de médecins.
Moi j'ai une maladie neurologique qui n'est pas du tout une paraplégie ou une hémiplégie. J'ai une question au niveau du cervelet en fait. Je vais faire un petit cours de science très rapide. Le cervelet est la partie basse du cerveau qui contrôle le tronc moteur. Donc c'est ce qui vous permet à vos muscles de... C'est le centre de contrôle des messages musculaires. Ça vous permet de contracter vos muscles et de décontracter vos muscles. Le problème pour moi, c'est que c'est un peu un robinet percé. Et disons-nous que si l'eau chaude est le message de contraction, ce robinet est tout le temps plus ou moins ouvert. Vous avez beau essayer de le faire, vous avez beau essayer de le fermer, il y aura toujours du goutte à goutte, comme dans une cuisine dans une cuisine, c'est ce bruit énervant du ploc, ploc, ploc. D'un point de vue neurologique, d'un point de vue factuel, c'est très simple, mes muscles sont tout le temps contractés, plus ou moins. C'est une base assez simple. Le seul problème que ça donne, c'est que je n'ai aucune maîtrise de l'équilibre. Je me mets debout, par exemple, je tombe. C'est aussi le premier cycle, symptôme que l'on détecte chez le nourrisson. C'est-à-dire qu'un jour, ma mère commençait à s'inquiéter parce que quand on me posait sur une table ou une chaise, bah, je tenais qui n'avait pas forcément de dossier, je tombais. Et du coup, pour moi, la perte de contrôle, ça s'assimile beaucoup aussi à une question d'apprentissage et une question de devoir purement pallier à ce que je ne sais pas faire. Par exemple, j'ai dû apprendre à marcher. J'ai dû aller à l'école, je n'avais pas forcément de fauteuil roulant. C'est-à-dire que quand on est tout enfant, généralement, on ne prescrit pas de fauteuil roulant. On utilise d'autres moyens, des petites poussettes, des espèces de trains... Chacun a sa façon de faire. Et j'ai dû apprendre à marcher. Sauf que apprendre à marcher, pour moi, ça n'a pas mis un an et demi à deux ans, comme la majorité des enfants. Je crois que ça a mis six ans. Un truc comme ça. J'ai commencé à marcher. Je devais avoir sept ans et demi. Et je crois que j'arrivais à marcher, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais à marcher en déambulateur. Mais dès que je lâchais, ou dès que je me tenais par un mur, je tombais. Et je crois que j'ai... J'ai pu commencer à dire que je marchais le jour en voyage scolaire, j'ai gravi le Puy de Sancy. Je ne sais pas si vous voyez cette image de Volvic, le fameux volcan de Volvic. Ben, ce n'est pas celui-là, c'est juste celui qui est en face. À partir de là, j'ai commencé à me dire que je maîtrisais mon corps. Enfin, pas parfaitement, parce que si vous me demandez de relever les doigts de pied, j'en suis incapable. C'est un truc, c'est pyramidal en fait. Plus je m'éloigne de l'extrémisme, plus je m'éloigne de mon cerveau, moins je peux marcher. Mais il se passe aussi un deuxième truc, c'est que je sais qu'un jour je ne marcherai plus. C'est que mes muscles, au bout d'un moment, seront trop hypertrophiés et un jour je ne marcherai plus. Et je me prépare à cette perte de maîtrise de mon corps. C'est pas méchant. Je dis pas que ça m'obsède, mais un jour je ne marcherai plus. Certes, il y a des palliatifs, il y a de la kinésithérapie, des choses comme ça, mais c'est quelque chose que, au fur et à mesure, un jour, une rotule va lâcher, un jour, je vais avoir mal à une épaule, donc ça va être plus dur de compenser avec le fauteuil. Mais ça reste des trucs... En fait, quand on est en situation de handicap, la perte de maîtrise de son corps, c'est quelque chose... Je vais élargir un peu, la notion même de... pas de maîtrise, mais de connaître son corps, c'est quelque chose d'hyper courant parce qu'on est obligé de fonctionner avec quelque chose qui n'est pas dans la norme. Par exemple, quand on va me demander de qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple par rapport à mon corps qui me dérange pas au quotidien, mais sur lequel il faut que je pense. Je vais réfléchir un peu. Je vais revenir quand j'aurai trouvé un exemple.
Non, j'ai rien de spécial à ajouter. Moi, j'en suis restée aux difficultés que pose le corps quand on est un gamin et qu'on vous fait faire du sport et que vous n'êtes pas super doué et que vous voyez que ça marche super bien pour les autres et que vous, ça marche pas bien. Mais c'en est à peu près, c'en est resté là. Ce qui probablement explique un de mes goûts pour la SF, où on trouve les deux extrêmes, on trouve des gens qui ont des corps transformés hyper efficaces, qui vous permettent de faire des choses que le commun des mortels ne fait pas, comme voler, comme sauter, comme plonger, comme vivre dans l'eau. C'est tout de même extrêmement attirant. Donc, de ce point de vue-là, la science-fiction, c'est un excellent moyen de sortir d'un corps dont on n'est pas super satisfait quand on est môme, pour des raisons assez bêtasses. Mais bon, c'est comme ça.
Oui, et dans la science-fiction, pour revenir sur le handicap et la perte de maîtrise du corps, c'est quelque chose qui est hyper fréquent et hyper courant. Là, j'ai eu un exemple en tête qui est peut-être pas le plus pertinent qui soit, mais par exemple, on va prendre Bruce Wayne. Vous connaissez tous Bruce Wayne. Bruce Wayne, un jour, on lui a cassé la moelle épinière. Il se retrouve paraplégique et Batman n'est plus Bruce Wayne. Batman reste Batman. On lui trouve un super remplaçant. Et en fait, Batman, après quelques arcs narratifs chez DC Comics qui étaient très ratés, perd la maîtrise de son corps et du coup, Batman n'est plus Batman, mais est remplacé par un incarnat qui est en plus un peu magique et un peu taré. Si ma mémoire est exacte, ceux qui lisent DC Comics pourront me dire que je me trompe, mais c'est pas grave. Mais le principe même de Batman, c'est qu'au bout d'un moment, on a besoin du vrai Batman. Et le vrai Batman se construit, enfin, réalise, parce qu'il est riche, réussit à trouver un traitement pour récupérer la maîtrise de son corps. Je crois qu'il se fait opérer, par le meilleur des chirurgiens et il récupère toutes ses fonctionnalités corporelles. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans le film de Nolan, mais en moins archaïque et en moins héroïque. Quand la SF joue avec le handicap, c'est souvent héroïque et ça sert souvent à but de magnification. Et Batman revient encore plus fort et encore plus prévenu qu'il n'est pas un homme infaillible. la majorité des super-héros de l'univers Marvel ou DC, quand ils se retrouvent de situations de perte de maîtrise de leur corps, ce n'est qu'une épreuve pour pouvoir ensuite aller se remettre en question pour aller défoncer le premier gros méchant qu'ils trouveront sur leur chemin, qui est justement qui leur prouvera que ce n'est qu'un détail et qu'ils sont forts. Voilà. On pourrait cependant, un des super-héros que j'aime beaucoup, c'est le professeur Xavier. Parce que le professeur Xavier, c'est un des seuls super-héros qui perd la maîtrise de son corps, mais qui n'a pas forcément, sauf à 2-3 reprises, une vocation à récupérer son usage corporel. Il est beaucoup plus intelligent que ça, il utilise son pouvoir naturel de télépathe et de télékinésiste pour se déplacer. Et je trouve ça assez drôle, parce que X-Men, c'est quand même assez progressiste comme BD. Et c'est cool, parce qu'on n'en fait pas... C'est quelqu'un qui assume totalement le fait que son corps... Enfin, il a perdu tout contrôle de son corps. En même temps, il s'en fout un peu. Il peut transplaner dans le plan astral pour aller communiquer avec n'importe qui et chercher n'importe quel mutant avec son cérébro. Et j'en connais, en fait, il y a peu de héros de SF ou de super-héros, pour moi en tout cas, qui acceptent totalement leurs conditions. J'ai fait un petit listing en préparant cette table ronde, et je crois que, à part peut-être dans Incassable, où le super méchant est totalement conscient qu'il a une ostéogénèse imparfaite, ce qu'on appelle la maladie des os de verre, et qu'il doit trouver son double, et qu'il accepte totalement sa condition. Justement, le fait qu'il ait cette ostéogénèse imparfaite implique que Bruce Willis existe. Il n'y a pas forcément de... La perte de maîtrise de son corps est quelque chose de passager, en fait. Peut-être, sauf chez Bujol. Chez Bujol, dans sa saga...
Que je connais assez mal.
Où le héros a aussi une ostéogénèse imparfaite et ça arrive à des situations qui, des fois, le ramènent à sa propre condition d'homme fragile au sens homme aux os de verre. Voilà ce que j'avais à dire. Désolé, j'ai été un peu long. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Mais c'est vrai que la perte de contrôle du corps ou de partie du corps, parce que ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ce n'est pas le corps dans sa totalité, c'est des morceaux. Par exemple, si on remonte un petit peu au début du siècle, c'était les mains d'Orlac, où c'est des mains qui... est-ce que c'est celui où on fait greffer les mains ? Et où on a peur que les mains possèdent un être propre ou la personnalité de celui qui les avait avant et qu'elles commettent des choses, qu'elles fassent commettre des choses à la personne sur qui elles ont été greffées, comme si les morceaux du corps conservaient des qualités de la personne à qui elles appartenaient. Ça, c'est très c'est très étonnant. Comme conception. Sinon, on trouve en SF classique, on trouve des textes où des gens se retrouvent avalés par des créatures extraterrestres. Par exemple, dans une nouvelle de Damon Knight qui s'appelle Four in One. Et ce sont des gens qui arrivent sur une planète, qu'ils découvrent, etc. Donc c'est vraiment le texte classique qui date des années 50. Et pas de chance, ils se font les uns après les autres absorbés par un espèce de machin qui change leur perception, qui change leur corps et qui les inclut dans un autre organisme. Et du coup, ils ne sont plus du tout des humains, les pauvres malheureux. Sinon, si on va plus loin, il arrive... Là, on a des histoires, en général, individuelles qui arrivent à une personne, deux ou un petit groupe. Il y a un texte d'une auteure britannique qui, malheureusement, est assez peu traduite en France, qui s'appelle Nicola Griffith. C'était un texte que j'avais publié dans Century 21, une anthologie parue dans les années 95. Le titre français était Le chant des grenouilles, le cri des oies. Et ce qui se passe dans cette nouvelle, c'est que tout le monde est ralenti. tous les gens ont quelque chose, une sorte de maladie, on ne sait pas quoi, qui les ralentit à l'extrême. Donc toute la société est en train de changer de manière inéluctable parce que bah, les gens ils n'arrivent plus à faire vite et bien toutes les choses qu'ils faisaient avant. Et ce que je ne savais pas, est-ce que Nicola Griffith ne disait pas à l'époque, c'est qu'elle a la sclérose en plaques. Et qu'en fait, ce qui se passe dans cette nouvelle, c'est une métaphore pour ce qui était en train de lui arriver. Sauf que elle, ça lui arrive en tant que personne toute seule, mais là, ça arrivait à toute la société. Et elle a écrit récemment un autre livre où elle parle justement du fait d'être handicapé et ça s'appelle So Lucky, mais je suis désolée, c'est pas traduit, donc voilà. Mais là vraiment il y a une perte de contrôle de corps de façon qui est très qui est décrite, qui est primordiale dans le texte, quoi.
Moi je ne suis pas du tout un spécialiste de science-fiction, donc je ne peux pas vous dire grand chose. Ce que je peux vous dire, que quand même, vous connaissez tous Albert Camus. Voilà. Bon, Albert Camus, quand on regarde son œuvre, eh bien, quand on connaît la langue des signes, par exemple, on s'aperçoit qu'il écrit avec la syntaxe de la langue des signes et on s'aperçoit de l'importance du silence dans l'œuvre d'Albert Camus. Et après, j'ai appris plus tard, j'avais fait Albert Camus à mon terminal comme tout le monde, et j'ai relu ça à 40 ans, mais c'est la langue des signes là-dedans. Mais oui, sa maman était sourde. Son oncle était sourd, il a été élevé dans le silence, et ça influence son œuvre. Enfin, je vous lis ça comme ça, voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que ma modeste expérience, c'est justement d'être, et c'est ça que j'aime dans la science-fiction, d'en déplacer ses repères, c'est que quand on est confronté à quelqu'un qui a un autre rapport au monde que soi. Alors, la science-fiction, c'est tout le temps ça, bien sûr. Et ben, moi, ce qui m'est arrivé quand je me suis retrouvé au milieu des sourds, eh bien, ben, ma voix, elle ne portait pas. Quoi. Hein, j'avais pas de retour de ma voix. Et donc, qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qui était important? C'était l'expression de visage. On bouleverse complètement ses repères. Complètement. Donc, c'est toute une phase. Il faut des années pour se transformer. Enfin, surtout qu'on n'est pas très doué comme moi, mais il faut des années. Et ce qui est important, c'est après, qu'est-ce que cette personne veut me dire? Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle elle me dit? Parce que les mots n'existent pas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et on commence à voir la représentation mentale d'image dans son interlocuteur. Alors ça, c'est un peu gagné, quoi. Quand on commence à penser, alors on ne pense plus en mots, on se met à penser en image. Mais ça, c'est... On se transforme, hein, pour le coup. Voilà. Et donc, l'altérité, c'est important. Parce que, et la science-fiction, c'est important. Tout ça, c'est important parce que ça entraîne à la diversité, à la prise en compte, et pas la prise en charge, pour un médecin, de ça. Quoi. Je voulais dire un petit mot, parce qu'on dit l'histoire de perdre le contrôle de soi, mais ça arrive à des millions de gens sans qu'on le sache. Parce que là, bon, tu parlais d'une maladie rare, quoi, rarissime, des syndromes rarissimes, mais le diabète, par exemple. Le diabète, c'est des millions de gens. Eh bien, les gens qui sont en hypoglycémie, eh bien, ils perdent le contrôle d'eux. Et ça, les médecins, ils passent à côté très, très souvent. Pas que les médecins, tout le monde. Hein. Des gens qui sont énervés, agressifs, c'est parce qu'ils sont à 0,30 de glycémie, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est le devenir de beaucoup de gens dans la salle. C'est quand même 5 à 10% des Français. Hein, donc, cette histoire de perte de contrôle, c'est important de ne pas rester dans ces normes, dans ces machins, les habitudes, etc., mais d'essayer de réfléchir qu'est-ce qui arrive à l'autre qui est en face de nous. Je parle pour les médecins, mais ça, c'est très, très important. Je pense que, par exemple, le diabète est très mal pris en charge en France parce que, c'est comme tu disais, tu fréquentes les médecins depuis des années, les diabétiques les fréquentent pendant des années, mais ils sont beaucoup plus experts de leur maladie que les médecins. Ça, c'est un réel problème. Voilà. Donc voilà.
Et moi j'avais une petite question pour toi, Jean. Comment ça se passe quand pour une consultation par exemple comment on arrive à communiquer? Comment les premières fois tu as réussi à communiquer sur la douleur, sur des choses que toi tu vocalisais, que tu sur lesquelles tu avais un jargon? Est-ce que tu as dû apprendre un jargon ou est-ce que tu as dû développer pour les médecins, des choses spécifiques, en fait.
Oui, il faut complètement... C'est une autre façon de dire la médecine. D'abord, il faut penser en images. Voilà. Surtout pas penser en français, en anglais, en espagnol. Il faut penser en images. Et d'abord, que le médecin se... Il faut surtout pas que pendant une consultation, il y ait un téléphone. Parce que le téléphone, hop, on se remet à parler en français et on repose et repartir en images, ça va pas. Ouais, il faut se concentrer et on est un autre nous-mêmes. On est un autre nous-mêmes. On se met à penser différemment. Et ben, maintenant, je me mets à rêver et je pense en langue des signes et pas en français. Enfin, au bout d'un moment, on a deux pensées. Et la langue des signes, c'est, les concepts sont visuels. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, ici dans la salle, il y en a beaucoup, qui ne pensent pas en mots, bah, comme Einstein. Hein. Einstein n'a pas pensé en allemand. Hein. Quand il explique Einstein, vous avez vu sur le film, où il explique avec l'histoire des trains, la relativité, il explique, il a pensé en images. Il y a des gens qui pensent en images et qui ne pensent pas en mots. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Hein. Bon, les sourds, ils pensent toujours en images. Quoi, de toute façon. Voilà. Et donc, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Oui, alors pour dire la médecine. En image, c'est beaucoup plus, enfin, c'est plus facile. Les gens, le problème avec la langue des signes, c'est que les gens comprennent tout. Ce qui est un gros problème, parce qu'il n'y a plus de jargon médical. Si vous dites à quelqu'un, excusez-moi, je vous montre, si vous dites à quelqu'un, vous avez un poumon, là, vous avez un cancer. Alors quand vous dites à un entendant, vous avez un mésothélium, machin, ou une cellule, une aplasie, petite cellule, dans les yeux, la personne comprend que c'est une saloperie, mais elle comprend pas tout de suite. Elle comprend dans une minute, un quart d'heure, deux jours après. Pas immédiatement. Les sourds, ils comprennent tout de suite. Et alors là, la première fois que c'est arrivé à faire ça en langue des signes, ça faisait 15 ans que des entendants dire j'étais médecin hospitalier, donc la salpêtrière, des maladies lourdes. Hein. Donc j'avais l'habitude de donner des diagnostics, mais je tremblais jamais. Quand je l'ai fait pour les sourds, je me suis aperçu que la personne comprenait immédiatement ce que j'étais en train de dire, et c'est moi qui me suis mis à trembler. Je n'avais plus le jargon médical pour me protéger. Le jargon médical sert à protéger le médecin, point. Quoi. Il ne sert pas à autre chose. Et donc, c'est là où j'ai découvert grâce à la langue des signes, parce que les gens comprennent instantanément, parce qu'on est visuel. Voilà. Donc, ce que vous dites, schizophrénie, voilà, c'est ce que vous voyez bien, qu'il y a deux personnalités. Enfin, tous les signes sont en rapport avec la réalité. Si je vous fais la digestion, l'estomac qui fait ça, vous prenez l'estomac, hein, puis je vous fais que l'estomac, il y a un trou, c'est l'ulcère. Oui, mais les gens comprennent. On s'en fout de dire ulcère. Comprendre que c'est un trou, puis il faut boucher le trou. Voilà. La langue des signes, qui est une langue visuelle, permet de comprendre les concepts médicaux d'une façon immédiate et très très facile. Pour moi, la médecine, c'est beaucoup plus facile en langue des signes qu'en français. Je n'ai pas été trop long.
Non.
Non, je me demandais comment on fait quand on veut être vrai, quand on veut être précis sur des termes médicaux ou des pathologies ou. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est...
C'est beaucoup plus précis et rigoureux que le français. Si vous dites, par exemple, je suis obligé de montrer, hein, si vous ne m'entendez pas, mais je suis obligé de montrer, si vous faites ça, les poumons, l'alvéole, d'accord, elle est bien précise. Après l'alvéole, qu'est-ce qu'on fait en langue des signes? L'alvéole est comme ça, on va la grossir. On fait une alvéole. Je vous explique, on prend le gaz carbonique, l'oxygène remonte, etc. C'est beaucoup plus rigoureux et précis. Si vous montrez, bon, les sources et les images, vous montrez des images. S'ils ne sont pas précis sur le plan anatomique, ça ne marchera pas. Ce n'est pas crédible. Non, non, c'est très rigoureux, très précis, ça demande énormément de travail. Et les meilleurs là-dedans, c'est les professionnels sourds. Les médiateurs sourds en santé, ils ont une précision remarquable au niveau anatomique. Non, je veux dire, c'est très, très, très précis. Mais c'est une autre façon de penser. Je ne dis pas que c'est mieux que l'oral et tout, c'est différent.
C'est
entre les mots médicaux. Ça arrive à imaginer des choses, et ce visuel où on voit tout, et qui est très rigoureux et très très précis. Hein. C'est-à-dire le cancer, il est là, hein, il n'est pas là. D'accord. Si vous voyez, je ne vais pas être trop long, mais un exemple. Les femmes entendantes. Bien sûr. Voilà, par exemple, les femmes enceintes. Les femmes enceintes, ce qu'on appelle primipare, parfois, la première grossesse d'une femme, c'est rare les femmes qui sachent où est la tête, les pieds, etc. C'est rare. Bon, deuxième, troisième grossesse, bon, ça va mieux. Les femmes sourdes, alors là, je vous dis, dès la première grossesse, elles vous disent exactement la tête est là, les pieds est là, etc. Ils ont un rapport au monde, un rapport à leur corps qui est beaucoup plus précis et dans les sensations. Voilà. Donc ça, c'est clair, quoi. Voilà.
Non, je...
On va passer le micro dans le public pour déjà commencer la séance de questions, s'il vous plaît. Il n'y a pas de.
Je me demandais, ça marche ? Pourquoi ça marche ?
Attendez, ça va arriver, je pense.
Est-ce que ça marche ?
Oui, ça fonctionne.
Faut parler. Là, ça marche ?
Ouais. Oui, là, ça marche très bien.
Je voulais vous demander, vous dites que le langage médical est beaucoup plus précis en langue des signes. Comment vous faites avec la santé mentale ?
Je vais vous répondre, je ne suis pas psychiatre, ça va. Non, mais c'est effectivement un énorme problème. Les psychiatres qui pratiquent leur métier en langue des signes ne travaillent jamais seuls. Ils travaillent avec un professionnel sourd. Parce que de toute façon, il est très très difficile de voir la différence entre ce qui peut être une hallucination, un délire, ou sa propre limite linguistique. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est très très compliqué. Donc c'est en binôme. La question est complètement pertinente. C'est un réel problème. Parce qu'on sait, plus où on est, parce que le corps est très proche de la langue. Donc on ne sait plus si c'est un délire, une hystérie, etc. Dans les signes eux-mêmes. Même par exemple, quand. Moi, des choses que je sais avec l'habitude, mais je repère. Si quelqu'un fait ça comme ça, ça veut dire viol, mais c'est un lapsus, enfin, ou un acte manqué, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais ça se repère au bout des années, tout ça. Et ça se repère parce qu'il y a un professionnel sourd avec qui on travaille. Il te dit, t'as vu, il a fait ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Puis on fait un débriefing après. Et voilà. Donc c'est un réel problème, la psychiatrie en langue des signes. Enfin, voilà. Mais on s'en fout complètement du signe schizophrène, on s'en fiche. Les personnes schizophrènes, ce n'est pas son problème, le signe. Le problème, c'est d'arriver à ce que les gens s'expriment, à comprendre ce qui est... voilà. Et pour un médecin, est-ce qu'il met limite linguistique ou la personne délire ? Grosse question. Ça va ?
J'aurais une autre question. J'ai peur de faire... Ah, c'est... Bon, c'est un petit peu dans le même esprit, en fait. J'ai peur de faire un autre sujet, mais est-ce que vous pouvez parler des pertes de contrôle de son corps dans le cas de consommation de psychotropes ou de drogues, alors, au sens large, alcool, tabac, drogue dure, drogue douce, voilà. Parce que c'est une perte de contrôle de soi, de corps. Enfin, violent, d'ailleurs.
Enfin, si on doit répondre personnellement, ni plus ni moins que la plupart des gens. On a tous bu, peut-être fumé, peut-être avalé des choses, enfin je sais pas.
Moi, je vais avouer un truc totalement. J'espère qu'il n'y a aucun représentant des forces de police ici. ça m'arrive d'utiliser certains psychotropes pour des vertus totalement relaxantes. C'est totalement. J'avais eu une discussion une fois avec un médecin, voire un kinésithérapeute, qui m'avait demandé « Mais pourquoi t'as arrêté la kinésithérapie ?» Bon, la kinésithérapie, c'est un truc lourd. C'est très bien pour essayer de garder le contrôle du corps, mais au bout d'un moment, c'est comme faire l'entretien de sa voiture, sauf qu'au bout d'un moment, l'entretien de sa voiture, si on ne change pas les pièces, elle tombe en panne. Sauf que le problème, c'est que la kinésithérapie, c'est 3 séances par semaine sur à peu près toute sa vie. Et c'est à peu près des séances de 45 minutes à 1h30. C'est un truc qui, au bout d'un moment, m'a rendu totalement cinglé parce que je m'endormais sur les tables de massage. Je voyais pas l'intérêt du truc. Et mon kiné, pour te répondre à ta question sur les psychotropes, m'a dit « Est-ce que tu continues à fumer des drogues ?» Je lui fais oui. Il me fait continue, tu vas pouvoir te relaxer. Et c'est vrai que d'un point de vue, c'est comme le CBD par exemple. Ça permet dans certains types de maladies, je pense au cancer ou à d'autres.
L'anxiété permanente ou presque.
Ça permet de se décontracter. C'est une perte de corps voulue et pour moi, voulue et nécessaire. Je ne dis pas que je fume des joints comme Bob Marley avec des tailles totalement énormes. Moi, je parle d'un tout petit truc qui me permet de me décontracter parce qu'au bout de 12 heures dans un fauteuil, j'ai un peu mal au dos. J'ai de la chance dans mon malheur, je déteste cette expression quand je parle de mon handicap. J'ai de la chance quelque part dans ma dans ma pathologie, c'est que j'ai de la sensibilité. Donc, si j'ai mal et que je peux me lever, si j'ai mal, je me lève un peu. Mais quand on passe 12 heures dans des transports ou qu'on reste assis tout le temps, on a des douleurs assez chroniques. Et oui, l'utilisation de psychotropes, ben moi, je suis pour, en fait. Ça peut paraître, ça peut paraître anodin, mais moi, c'est pas du récréatif, c'est juste pour décontracter. J'avais d'ailleurs, en parlant d'alcool, il y a quelque chose qui est très drôle. Je me souviens plus du nom du médicament, mais il y avait un médicament qu'on prescrit aux anciens, aux alcooliques pour essayer de les sevrer. Je sais plus le nom.
C'est le baclofène.
Le baclofène. Moi, j'ai deux traitements, par exemple, qui sont très drôles. Si je veux utiliser des médicaments oraux en baclofène, par exemple, c'est pour les gens comme moi, en fait. Je serais traité, si je prenais un traitement de baclofène, ce serait pour moi. J'aurais un traitement de baclofène jusqu'à à peu près la fin de ma vie. Je ne le fais pas forcément, c'est un choix, et je ne le supporte pas. Mais c'est exactement un traitement selon certaines études, anti-alcoolique. Et le deuxième produit, qui connaît la toxine botulique ?
Ah oui.
Je vais vous dire son vrai nom, c'est le Botox. Si je vous dis le Botox, tout le monde connaît le Botox ici. En fait, le Botox, moi, pour ma maladie, c'est très simple. C'est ce qui va me servir à... C'est des injections qui peuvent permettre de griller certaines terminaisons nerveuses au niveau des jambes pour avoir plus de flexibilité. Mais pour, il y a certains types de drogues sur du lâcher prise par rapport à du handicap ou par rapport à des maladies de longue durée. Quand c'est des produits efficaces qui permettent à des cancéreux de retrouver de l'appétit ou de soulager des douleurs, je ne vois pas l'intérêt de s'en priver. Si ça leur permet de manger, d'éviter une perte de poids alors qu'on est en train de faire une chimio ou de la radiothérapie, et d'avoir du lâcher prise sur des douleurs qui sont récurrentes, je suis pour, c'est tout.
Oui, moi je suis entièrement d'accord, hein, pour des raisons différentes, mais je suis absolument entièrement d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nicotine dans ce truc-là.
Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Antoine, sur ce qui me semble être un thème très intéressant pour les auteurs et autrices aux Utopiales, c'est celui de la narration. Quand tu dis qu'effectivement le discours dominant, il est plutôt de dire que c'est un obstacle à la perfection, la perte de maîtrise, elle va être temporaire, puis dépassée, pour devenir encore plus bourrin derrière, avec peut-être un ou deux contre-exemples en SF, je pense à Des fleurs pour Algernon, où il y a une parfaite maîtrise, puis une déchéance qui est du coup très tragique. Mais ce qui me semble intéressant en termes de responsabilité d'auteur, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait effectivement arriver à raconter un récit qui puisse garder ce qui fait la force d'une perte de maîtrise, paradoxalement, parce que comme en thermodynamique, ce qu'on perd quelque part, on le gagne ailleurs, là où on a tendance justement un peu trop à dire il faut gagner, ce qui est d'ailleurs un souci même politique, en général, ou écologique. Donc, il faut des fois lâcher prise. Comment on va rendre ça positif en termes de récit, que ce soit pour la décroissance, l'appeler autrement, pour peut-être qu'on en parle d'une manière qui soit plus positive, ou pour la perte de maîtrise. L'exemple que tu donnais du professeur Xavier est intéressant. On peut voir Daredevil, mais qui est presque caricatural, parce que finalement, il est tellement fort qu'il n'est pas aveugle. Mais du coup, qu'est-ce qui serait à raconter ? Et là, je pense qu'il y a une infinité de choses à faire, mais pour montrer qu'il y a quelque chose à gagner dans la vulnérabilité, et non pas dans « c'est temporaire et je redeviens encore plus fort ». L'exemple qui était donné par ce langage des signes me paraît hyper parlant, parce qu'on pourrait voir ça comme une vulnérabilité au départ, qui ouvre un champ de sensibilité, de compréhension, qui peut être infini, fondamentalement. Ça, c'est très positif. Et ce n'est pas de l'ordre de « je suis devenu super, super fort parce que j'étais sourd » ou « j'étais super fort parce que je suis aveugle comme Daredevil ». Voilà, je ferme la petite parenthèse.
Ce qui va peut-être être intéressant, c'est que Sylvie Lainé est en train de réaliser une anthologie qui va s'appeler « Vulnérable », dans laquelle j'aurai un texte. Qui paraîtra chez... J'ai oublié le nom.
Je sais plus.
Oui, bon, ça va me revenir. Et donc, en fait, les personnages du texte que j'ai écrit sont vulnérables, mais pas tellement de façon corporelle, encore qu'ils tombent dans une sorte de puits infini et dans lequel ils voient des strates qui sont des univers différents. Et le problème, c'est qu'ils sont enfermés chacun dans des bulles. Et tous ces gens sont complètement perdus, ils ne comprennent pas ce qu'ils fichent là. Il faut qu'ils arrivent à se débrouiller pour soit communiquer, soit aller quelque part, soit trouver, etc.
Moi, j'ai deux exemples pour toi, Fabien. C'est très simple. Card, Orson Scott Card. J'ai toute Bean. Vous connaissez Bean, donc Trilogy d'Under, le premier tome, la stratégie Under. C'est un personnage qui est petit, qui est on apprend plus tard génétiquement modifié dans la suite de la saga, mais il met son handicap au service de quelque chose d'autre, de son atout physique de pouvoir se glisser partout, à l'école de la guerre, de développer des choses que les autres ne peuvent pas faire parce qu'il est tout petit. Et dans le même style d'idée, donc c'est plutôt le côté futé qui va se dégager de cette trame narrative. C'est pas des péripéties forcément physiques qui va vivre. Et donc second tome, dans La Voix des Morts, je crois qu'il y a un personnage secondaire. J'ai oublié son nom. Ça m'ennuie beaucoup, mais c'est le fils d'une des anthropologues, des xénologues qui est sur la planète des. Le nom de ces extraterrestres à tête, porcin, qui. Les piggies, voilà. Et son handicap n'est pas temporaire, mais il permet une certaine ouverture de compréhension sur les piggies, si je me souviens bien. On pourra me corriger peut-être, mais il permet une meilleure compréhension des piggies. Il y a toujours ce côté plus cérébral et moins action, en fait. Je pense que le principe même de perte de contrôle du corps est toujours synonyme d'action parce que c'est et de physique parce que c'est la première chose auquel on pense. Et là, je m'adresse plus à la BD qu'au roman. Au roman, on a toujours le voyage intérieur. On peut parler de la chronologie, par exemple, où les gens voyagent dans leur corps, voyagent dans leur temporalité tout en restant dans leur corps qui reste totalement inerte. Ils ont une perte vraiment de l'utilisation de leur corps ou ils souhaitent une autre utilisation de leur corps. Mais je pense que le champ se dégage en fonction de l'objectivation qu'on a vraiment du handicap, en fait. C'est qu'on pense que handicap, surtout parfois, juste comme un obstacle qui permet de rendre plus fort, parce qu'on trouvera toujours, d'un point de vue narratif, le Robin Miracle, le fameux MacGuffin qui te rendra plus fort. Je pense que j'ai répondu à ta question.
Ouais, moi, j'ai envie d'embrayer, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit là. Mais si je prends le peu que je connais, c'est que si je prends les sourds, ils sont déficients auditifs, si on centre tout sur la réparation de l'oreille, sur les sourds oralistes, on passe à côté, c'est la prise en charge, on passe à côté de la prise en compte. C'est-à-dire que la prise en compte, c'est que si ça ne marche pas d'un côté, eh bien ça marchera par les mains. Vous avez vu la langue des signes, ça va très vite. Ça passera par l'œil, etc. Et ça passera autrement. Donc, si on s'acharne sur la déficience, on passe à côté de la différence. Et la différence, ça, c'est un rapport au monde différent. Voilà. Et donc, dans les capacités humaines, il y a des possibilités d'autres rapports au monde. Je crois que c'est intéressant, sans avoir le traitement miracle. Non, on l'a en nous-mêmes, mais encore faut-il que se débarrasser des normes sociales. La norme sociale, il faut oraliser. Bon, mais s'il y a un interprète dans la salle, vous allez voir que tous les sons vont s'exprimer, tout le monde va tout comprendre. Voilà. Donc, où est la barrière? Est-ce qu'elle est dans l'oreille qui ne marche pas ou dans le fait qu'il n'y ait pas d'interprète? Qu'est-ce qui handicap? Est-ce que c'est la société ou c'est la perte d'audition? Ben, je crois que c'est la société qui handicape beaucoup, en fait.
Oui, bonjour. Alors déjà, si je peux revenir sur la question des psychotropes, les psychotropes, c'est des choses qui vont modifier la chimie fine du cerveau et donc leur action va dépendre énormément de l'état d'esprit dans lequel on est. Donc la perte de maîtrise peut-être que c'est, elle va arriver si c'est ce qu'on recherche avec l'utilisation des psychotropes. Et bon, voilà. Mais sinon, en fait, ma question, c'était sur l'écriture, et c'était sur l'écriture d'une personne handicapée par quelqu'un de valide. Est-ce que c'est possible de faire une bonne écriture ? Et j'aurais bien aimé avoir justement vos deux avis en tant qu'autrice et en tant que personne handicapée. Est-ce que c'est possible d'écrire quelqu'un qui soit crédible ? Et quelqu'un dont le but n'est pas de devenir, de ne plus être handicapé, justement, vraiment une personne.
On fait de son mieux. C'est une sacrée question. Parce que j'ai écrit un texte dans lequel un enfant a la maladie, cette maladie qui empêche les gens d'être exposés à la lumière du soleil. Ça développe des tumeurs, donc il est obligé de rester seul, de rester dedans surtout. Et j'ai un autre personnage dans le même univers qui ne redevrait pas habiter là où il habite et qui est obèse parce que ses mouvements sont limités. Après, je sais pas, je peux pas dire si je l'ai réussi ou pas. Le texte est publié, des gens l'ont lu, il semblerait que certains ont aimé. Il y en a peut-être qui ont trouvé que c'était raté, je sais pas. On essaie, je pense qu'écrire c'est tenter de se mettre dans la tête des gens, et ça se rapproche parfois plus du travail d'un acteur que du travail d'un traceur de lettres, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas savoir. Ou alors on fait un travail de documentation et on va interroger des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et on leur demande comment ils perçoivent telle ou telle chose. Ce qui peut être très intéressant, ou ce qui peut être bloquant, parce que le fait de savoir exactement ce qu'il en est de la réalité, du coup, ça peut bloquer et empêcher de partir sur des trucs auxquels on n'aurait pas pensé.
Moi, je te répondrai de manière simple. Quand on me crée un personnage devant moi qui est handicapé, je ne m'attends pas à avoir de la réalité en face de moi. Enfin, il peut y en avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les touches de réalité et là où elles sont placées. C'est-à-dire que si je vois une... Tiens, je vais prendre un super film. Un super film que vous avez tous vu, avec des extraterrestres bleus sur une planète alien et qui ressemble à Pocahontas. Moi, il y a deux trucs qui m'ont fait mourir de rire au bout de 5 minutes. C'est qu'on a, donc un mec qui va remplacer un autre mec, parce que il y en a un qui est mort et l'autre est jumeau, donc c'est bien, mais il y en a un qui est paraplégique. Ouais. Le premier truc, le film a à peine commencé, je le vois descendre un hélicarrieur qui arrive sur le sol, j'ai pouffé de rire dans la salle. Mais j'ai vraiment pouffé de rire. Parce que il met un gros sac militaire qui fait à peu près 50 kilos sur un fauteuil de sport de basket qui possède qu'une toute petite roue. Bon, j'ai fait du basket, je peux vous dire que la petite roue, elle tient très bien quand on n'a pas de poids comme ça. Mais théoriquement, il doit basculer. Le deuxième truc, c'est que 5 minutes plus tard, Cameron, on en pense qu'on en veut de ce film, a pour moi réussi le meilleur petit plan séquence du film quand il se connecte dans l'avatar et qu'il décide, le premier truc qu'il décide de faire, c'est de courir. Enfin, pour moi, c'est une réaction plus que naturelle. Mais je suis resté sur 2-3 petits trucs. Ils ont essayé de bosser le physique de l'acteur, mais il y a quand je vois sa musculature et que je connais des gens qui utilisent comme moi beaucoup de fauteuils, j'ai fait il n'a pas les épaules. Enfin, ça m'a fait mourir de rire, mais c'est dans la petite touche, tu vois. Il faut pas que ça soit me présenter un handicap brûle pour point tel qu'il est dans la réalité. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas un personnage pour moi, c'est une biographie. Encore, c'est pas une biographie que tu me proposes. Avoir un calque d'un mec en fauteuil, ouais, non. un calque réussi, enfin un dessin qui s'inspire et qui réussit sur des touches de détail, oui. Et il y en a certains. Enfin, c'est pas. Je pense à Card, mais vraiment, Card le fait très bien pour des raisons totalement personnelles, mais il a chopé quelques petits détails qui soient au fil de l'écriture. Ouais, on va une à deux dernières questions. Ça dépendra de la longueur de la question.
C'est bon là ? Ok. Ouais. J'essaie de faire court. Je voulais rebondir sur les propos du médecin et aussi de M. Wellman tout à l'heure sur tout ce qui est la théorie de la situation sociale du handicap qui s'oppose justement à la vue souvent un peu caritative et un peu misérabiliste qu'on a beaucoup en France. Où finalement on préfère dire ouin ouin ces pauvres handicapés plutôt que de penser aux adaptations qui leur permettraient finalement de mener une vie comme tout à chacun. Et je me posais la question que justement, est-ce que pour les valides, de voir quelqu'un qui n'a pas complètement le contrôle de son corps, parce que bon après ça pose question, est-ce que quelqu'un en fauteuil a forcément complètement perdu l'usage de ses jambes, voilà. Mais est-ce que ça ne renverrait pas aux valides leur propre peur de contrôler leur corps et leur propre peur de la mort aussi ?
Totalement. Enfin, je m'amuse beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit sur une autre table ronde sur le costume et le déguisement, mais pour rejoindre un truc, c'est qu'on est dans une société catholique qui est différente, par exemple, que des sociétés protestantes anglo-saxonnes. Sur un simple point, c'est la perception de l'individu dans la société. C'est-à-dire que dans la société catholique, on est sur la compassion, une certaine forme de culpabilité et un rapport au corps qui est pour moi totalement biaisé. Quand je vais en Angleterre ou quand je vais dans les pays nordiques, je ne suis pas encore allé aux États-Unis, mais ça ne saurait tarder. On ne me pose pas de problème, on n'est pas en train de me dévisager. Au pire, on me dit comment faire, mais on ne va pas vouloir absolument m'aider. Et ça, c'est quelque chose dans la perception qui est assez drôle et qui peut être très dur au quotidien. Il y a eu un espèce de truc sur Intouchable. Il paraît qu'il y a un film qui s'appelle Intouchable. Je ne suis jamais allé voir. Enfin, je ne peux pas. Juste par principe, je ne peux pas. Par contre, j'en ai subi les conséquences pendant à peu près 3 à 4 mois. C'est-à-dire que dès que j'allais faire mes courses dans le même supermarché où je vais à peu près depuis 10 ans, les gens voulaient absolument m'aider. Mais tout le temps. Et c'était à tel point que je rentre à 3 heures du mat, un peu éméché de ma soirée. Il y a le mec encore plus bourré que moi qui veut absolument m'aider. Et il y a un truc totalement factuel sur la maladie, sur le handicap et la maladie, et le fait que je suis en fauteuil. Tu me mets pas les mains sur les poignets sans me demander mon avis. Enfin, pour moi, c'est mon espace vital. Et c'est comme si tu me mettais la main sur l'épaule en pleine soirée en me disant « Viens, je t'emmène parler, je te ramène chez toi. » Non. La moindre des politesses, c'est de demander. Et j'ai vu me faire engueuler parce que j'avais dit non. Mais vraiment, je dis non, ils insistent. Et je leur dis, mais vous lâchez mes poignets, je ne sais pas. Enfin, ce serait. J'ai fait le parallèle très trash une fois à quelqu'un qui était méché, qui commençait à me pousser. Je lui ai fait, écoute, si ça avait été une jolie fille, tu l'aurais enserré par la ceinture et tu l'aurais ramené. Enfin, il y a une notion du corps sur le handicap, et c'est un peu mon coup de gueule, qui est encore très rétrograde.
Si je peux me permettre du coup de rebondir, une infantilisation en fait. Et ce qui est très très drôle, c'est que dans mon cas, moi je souffre juste de douleurs chroniques, mais je suis pas en fauteuil, j'ai pas de canne ni rien. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que soit vous êtes un objet ou une pauvre petite chose à qui on ne demande pas son avis, parce qu'on sait tous que les gens en fauteuil sont forcément aussi débiles.
Je confirme.
Je caricature, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, si vous n'avez aucune aide à la mobilité et que tant bien que mal vous arrivez à tenir debout sans que vos jambes lâchent parce que vous avez super mal et ben on va vous dire mais non, tout va bien, fais du yoga et voilà, il y a vraiment pas de juste milieu en fait.
C'est le problème du handicap invisible en fait. Il y a aussi le capacitisme, c'est pas que sur le fait d'être, c'est global. Moi, je déteste le capacitisme et le validisme. J'utilise le validisme quand on s'attaque à mon physique purement du fait que je puisse pas marcher. Mais par contre, j'englobe pour moi dans la définition capacitisme qui remet toutes les formes d'oppression des minorités handicapées. Et on est tous handicapés. Il faut se remettre ça aussi en tête. Voilà. Je pense que, vu l'heure, on va s'arrêter là. Je suis désolé pour le côté politico-politique de la fin. Mais voilà.
Merci.